C'est d'actu, tous les soirs sur Radio Alpa, présenté par Robin Hulin.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans C'est d'actu. Nous sommes ensemble pendant 25 minutes et aujourd'hui nous allons évoquer avec mon invité les révélations sur les conditions de vie des patients et du personnel soignant dans les EHPAD Orpea en France. Plusieurs jours après la sortie du livre Enquête de Victor Castanet, Les Fossoyeurs aux éditions Fayard, où il met en avant le système du groupe Orpea dans ses EHPAD, les témoignages de familles, de patients ou d'anciens patients sortent les uns après les autres. Dans l'édition du 3 février dernier, nos confrères de Ouest France publiaient les témoignages de plusieurs proches d'anciens résidents de l'EHPAD Orpea du Mans, dans le quartier des Sablons. Ces personnes dénonçaient les conditions de vie, d'hygiène et d'accès aux soins limités de leurs proches, ainsi parfois que les difficiles relations et dialogues avec la direction de ce centre, selon eux toujours. Nous aurons dans cette émission deux témoignages, le premier d'une proche d'une ancienne résidente du centre Orpea des Sablons, décédée il y a plusieurs années, et nous aurons un entretien avec une ancienne soignante qui a quitté son poste à Orpea des Sablons en 2020. Pour le moment, la direction d'Orpea des Sablons n'a pas répondu à nos sollicitations. Mais avant ça, je reçois Dominique Chave, secrétaire général de l'Union fédérale de la santé privée pour le syndicat CGT. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour commencer cette émission, Dominique Chave, en tant que responsable syndical dans le domaine de la santé privée, quel regard portez-vous sur les révélations et les observations que fait Victor Castanet sur le système au sein d'Orpea ?
Alors, je ne sais pas si ce sont des révélations. Pour nous, en tout cas, organisation syndicale, on a vocation, dans nos prérogatives, de devoir investiguer au-delà de notre activité au quotidien. Ce qui se passe dans le groupe Orpea, alors déjà, je tiens à dire que ce qui se passe dans le groupe Orpea, c'est ce qui se passe aussi dans une multitude de groupes qui, aujourd'hui, accueillent les personnes âgées en général, mais aussi dans tout le secteur lucratif. Dans le groupe Orpea, on le sait, il y a énormément de choses qui sont parues dans cet ouvrage de Victor Castanet, que bien évidemment, sur lequel on avait évidemment posé le doigt dessus depuis déjà. Je serais tenté de vous dire deux décennies. Pour autant, tant qu'on n'a pas de preuves factuelles, d'éléments, des témoignages, puisque là il y a 250 témoignages dans l'ouvrage, il nous est toujours difficile de pouvoir aller plus loin, notamment sur un prisme judiciaire. Donc l'investigation, on l'a menée depuis un petit moment, depuis 3 ans de manière un petit peu plus exacerbée. Et là, au croisé des chemins avec un journaliste, avec une juriste qui a travaillé 11 mois au sein de la RH d'Orpea, on a pu recueillir un certain nombre d'éléments qui nous ont permis aujourd'hui, à la sortie de ce livre de Victor Castanet le 26 janvier, de pouvoir dénoncer des situations, des dysfonctionnements dans ces établissements Orpea qui sont de différents ordres. Je crois que vous l'avez évoqué dans votre introduction. Tant sur le dialogue social au sein de cette entreprise, si on peut se permettre de parler de dialogue social encore aujourd'hui, que sur l'utilisation notamment de fonds publics qui sont
concrètement, que compte faire la CGT désormais ?
Alors, la CGT, elle a travaillé de façon à pouvoir amener tout ça au pénal nécessairement, sur différents angles, encore une fois, qui sont diamétralement opposés, tant sur la discrimination que vivent aujourd'hui les salariés dans ces établissements Orpea, que nos élus, bien évidemment, puisque ça fait partie pleinement de nos prérogatives, mais bien évidemment aussi sur l'utilisation des fonds publics, parce que je pense qu'à partir de ce jour doit s'instaurer dans notre société un débat sur comment on doit aujourd'hui accueillir nos aînés dans les structures pouvant les accueillir. On sait que dans les années à venir, on aura plus en plus de personnes âgées qui devront être accueillies dans ces structures. C'est quelle maison de retraite on veut pour demain, parce qu'on voit qu'aujourd'hui ça dysfonctionne.
Vous l'expliquez, ça fait plusieurs années que vous tentez d'alerter sur les conditions de ces EHPAD, mais pourquoi la parole et les témoignages se libèrent-ils autant seulement maintenant ?
Eh bien, je serais tenté de vous dire que, dû au fait que l'ouvrage sorte nécessairement, ça fait comme un souffle d'air pour un certain nombre de salariés, notamment de salariés. On a énormément, ça se calcule par dizaines de salariés qui nous font des remontées depuis la sortie de ce livre. Et plus les jours passent, et plus nécessairement on a de remontées de la part de ces derniers.
Eh bien, on va justement écouter le témoignage d'une proche d'une ancienne résidente qui a vécu dans le centre Orpea des Sablons. Elle est décédée il y a plusieurs années et cette membre de sa famille nous a contactés et a souhaité apporter son témoignage sur notre antenne. C'est aussi grâce à vous, Dominique Chave, que nous avons pu avoir ces entretiens, puisqu'il y en aura un autre dans quelques instants avec une ancienne salariée. Elle s'appelle Madame Bolou et c'est un entretien qui a été enregistré le 4 février, donc elle nous a autorisé à donner son identité. Et on écoute ça tout de suite. Alors, vous souhaitez donc témoigner au sujet du centre Orpea, au Mans et au Sablon, parce qu'un membre de votre famille a vécu dans ce centre pendant plusieurs années. Avant de se pencher un peu plus en détail sur ce que vous souhaitez dénoncer, expliquez-nous comment et en quelle année votre tante a rejoint cet EHPAD Orpea du quartier des Sablons.
Alors, ma tante est rentrée en septembre 2008. Mmh. et elle y est restée jusqu'en mai 2007, date de son décès.
Mai 2017, d'accord.
Voilà.
Comment est-ce que vous avez rencontré cet EHPAD Orpea ?
Orpea, alors je vais vous dire honnêtement, suite à une chute, elle avait été obligée de quitter son appartement. Dans l'urgence, on a essayé de trouver quelque chose de très proche de mon domicile, j'habitais sur Le Mans. Et Orpea étant récent, il y avait énormément de place. Donc après un entretien, eh bien, ma tante a choisi de rentrer dans cet établissement.
Alors pourquoi
la question est toute bête, proximité.
Pourquoi avez-vous souhaité témoigner justement aujourd'hui sur notre antenne ?
Parce que en cours, si au début, ça allait. Début, pas de soucis majeurs. En cours d'année, donc depuis 2008, j'ai vu de nombreuses directrices, directeurs. Ça tournait pas mal. Et puis, alors je me rappelle plus bien, mais il y a une dame, une certaine directrice qui est arrivée, je pense en 2015 ou 2016, et là, ça n'allait plus du tout. Moi, j'ai constaté des problèmes de maltraitance par rapport à mon proche, et puis des problèmes de dysfonctionnement. C'est vrai que compte tenu des années passées, j'avais pris contact, j'avais des contacts assez proches avec le personnel. Et tout d'un coup, alors ça n'allait plus du tout. C'était des arrêts maladie sans arrêt, c'était des absences non remplacées, c'était une démotivation, c'était même des tentatives de suicide. Et on sentait que la direction était ferme, rigide, aucun contact. Et forcément, ça reflétait sur le suivi de toutes les personnes, de tous les résidents qui étaient là. Donc moi, ça ne m'allait plus du tout.
Et justement, comment sont apparus vos premiers soupçons sur ces conditions de vie ? Qu'est-ce qui vous a alerté en premier ?
En premier, c'était le turnover du personnel. Vous savez, c'est important pour des personnes âgées de voir toujours les mêmes visages. Ça tournait tout le temps. Jamais la même personne ne s'occupait du résident. Donc ça, c'était gênant. Voir aussi, moi j'ai rencontré des personnes qui, dans un petit coin de la résidence, pleuraient, étaient complètement démotivées. C'était la catastrophe. On n'arrivait plus à faire ce qu'il fallait. Je vais vous donner un exemple, les toilettes. La toilette des résidents, il y avait 25 chambres à l'étage. Elles étaient deux pour faire les toilettes le matin. Dans ces 25 chambres, on avait un bon nombre de résidents non autonomes. Imaginez, c'était pas possible, quoi. Elles n'y arrivaient pas du tout. Donc là, moi, ça allait pas. J'avais pour habitude d'y passer régulièrement. Je faisais des visites, jamais à la même heure, mais très, très, presque tous les deux jours. Une fois, je suis arrivée, midi, c'était l'heure où tout le monde descendait dans la salle pour le repas. Ma tante n'était toujours pas lavée. Elle n'était pas la seule. Donc, on descendait les personnes comme ça, puis c'était terminé, hein, plus de toilettes. On ne parle pas des douches, hein, parce que les douches, moi, je ne sais pas, mais on m'a dit que le local n'était pas équipé correctement. Voilà, donc il n'y avait pas de douche.
Et qu'avez-vous décidé de faire à l'époque pour agir ?
Alors moi, j'ai d'abord voulu demander un rendez-vous à la directrice. Je la prenais pour responsable de la situation. J'ai pas pu discuter avec elle parce qu'elle a voulu se faire assister d'une personne que je ne connaissais pas. Et moi, j'ai refusé de parler à je ne savais pas qui. Donc je lui ai fait un courrier recommandé. Ensuite, j'ai alerté l'ARS, j'ai alerté le préfet, j'ai alerté le procureur. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. En sachant aussi que je faisais partie du conseil de vie sociale, c'est-à-dire qui regroupe les familles des résidents. Donc, moi, je pouvais me permettre de parler au nombre, en partie pour le certain nombre de résidences. Excusez-moi.
Quels étaient les tarifs, justement, pour...
Alors, à cette époque-là, donc moi, ça s'est arrêté donc fin mai 2017. On était arrivé à 3 100 € par jour. Et c'est là,
dans par jour,
par mois. C'est là qu'à un moment, j'ai écrit à Orpea, pas plus tôt au siège, en disant, mais ça va pas du tout, compte tenu des sommes demandées. La prestation de service, elle est pas du tout exécutée. On parlait d'échange, ça, l'échange, les protections pour les personnes incontinentes. Alors, il y avait une histoire obscure de budget. Il n'y avait jamais de stock. Ils n'avaient jamais de change. J'ai même vu ma tante, moi, rester avec une serviette de toilette du matin jusqu'au soir. Et pas de change. On ne savait pas pourquoi. C'est pas normal. Le repas, c'était... Il y avait soi-disant des petites réunions tous les mois pour savoir ce que désiraient les personnes âgées. Je vais vous donner un petit exemple. On était dans la Sarthe, donc, et ils désiraient manger des rillettes. Quand même pas forcément, les Sartois aiment les rillettes. Eh bien non, parce qu'il y avait une diététicienne à Paris qui avait décidé que le repas, c'était comme ça, et c'est tout. Il n'y avait aucune dérogation possible. Ben voilà. Ils n'étaient pas satisfaits, les pauvres petits vieux, là, qu'on avait. Ils étaient tout gentils.
Est-ce le livre de Victor Castanet, les Fossoyeurs, qui est l'élément déclencheur qui vous a donné envie de vous exprimer à ce sujet ?
Alors, j'avais déjà fait beaucoup de choses à ce moment-là. C'est vrai que j'ai arrêté avec le décès de ma tante, j'ai tout laissé tomber. Mais ça a ravivé mes souffrances, moi aussi, hein, parce que moi, j'étais pas heureuse de voir cette situation. Et c'est vrai que ça m'a fait mal et que là, je me rends compte que ce que j'écrivais à Orpea, eh ben, c'était pas si ridicule que ça. Hein, quand je leur disais que ils prenaient pas le temps de prendre en charge personnellement chaque résident au bénéfice d'une politique globale de rentabilité. Eh ben voilà.
Que comptez-vous faire désormais ?
Là, je vais essayer de me joindre au comité des familles qui veulent relancer la procédure, une procédure judiciaire. Moi, je suis d'accord pour en faire partie et relater un petit peu toutes mes connaissances et mon vécu sur la vie de ma tante là-bas, en sachant que, mais j'ai pas de preuves, et ça m'a fait très très mal. Elle est décédée d'une occlusion intestinale. J'estime qu'ils sont en partie responsables de ce problème, parce qu'ils n'ont rien vu, ils n'ont rien fait, ils ne bougeaient pas. Ils n'ont jamais bougé, ils n'ont jamais alerté qui que ce soit. Une fois même, je me suis aperçue qu'elle avait le pied tuméfié. J'ai posé des questions, oh, mais non, c'est rien. J'ai insisté pour qu'elle passe une radio, le pied était cassé. Mais c'est pas grave, une personne âgée ne souffre pas. De toute façon, il n'y a rien à faire. Voilà ce qu'on me répondait.
Merci
voilà.
D'avoir répondu à nos questions.
Ben, je vous en prie. Au revoir.
Qu'avez-vous à dire, Dominique Chave, sur ces mots et ces accusations graves que porte Madame Bolou.
Alors ce sont malheureusement des retours qu'on a de manière assez récurrente, que ce soit de familles, de patients, voire de salariés ou d'élus de notre organisation syndicale. Moi ce que j'ai à dire, et ça sera pas sous forme de conclusion, mais quand même il faut le retenir, c'est que quand on met de la profitabilité, de la rentabilité dans un secteur tel que le soin, et en particulier dans l'accueil de la personne âgée aujourd'hui qui est notre dossier, nécessairement c'est au détriment de la prise en charge de ces derniers, de ces résidents, et nécessairement aussi au détriment des conditions de travail des salariés dans ces établissements. Donc on pense, nous à la CGT aujourd'hui, qu'il nous faudrait nationaliser ce type de groupe, que le lucratif n'a rien à faire, le secteur marchand n'a rien à faire dans la santé, et que nécessairement l'État doit prendre ses responsabilités aujourd'hui de façon à ce qu'on ait un grand service public de la santé et de l'action sociale d'ailleurs.
Et de quelle manière votre syndicat peut-il recueillir suffisamment de preuves pour attester de la véracité de ces lourdes accusations ?
Alors comme j'ai commencé mon intervention. Bon, un syndicat, il a aussi vocation à investiguer. Nécessairement, aujourd'hui, quand on pointe du doigt un certain nombre de dysfonctionnements, il faut nécessairement avoir les preuves, les témoignages qui nous permettent d'aller sur un contentieux. Et là, ça relève du tribunal pénal. Donc, évidemment que depuis un certain nombre d'années maintenant, nous avons creusé de façon à pouvoir ressortir les preuves qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir aller au tribunal pénal.
Et vous affirmez aussi qu'Orpea met de grosses pressions pour décourager à saisir la justice. Vous disiez ça il y a quelques jours, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Oui, alors la grosse pression, elle se joue et elle se joue d'ailleurs actuellement, puisque les salariés eux-mêmes, les directions de ces établissements qui témoignent de manière assez nombreuse d'ailleurs dans la période, puisque je vous dis, hein, une fenêtre s'est ouverte en termes de communication pour eux, et donc ils s'expriment pleinement, de manière anonyme ou pas d'ailleurs, devant les médias. La direction, c'est passé encore la semaine dernière, un directeur a parlé, il a été licencié sur le champ, et ça c'est les modes de pression qu'applique le groupe Orpea depuis toujours, et malheureusement on le constate encore malgré la chape de plomb qui leur est tombée sur la tête récemment.
À ce jour, combien de témoignages avez-vous pu recueillir en France ces derniers jours ?
Alors nous, on a vraiment plusieurs dizaines de témoignages. Pour autant, là aujourd'hui, on a y compris créé une boîte mail dédiée de façon à pouvoir recueillir tous ces témoignages de familles, de salariés et d'élus. Donc depuis l'ouverture de cette boîte la semaine dernière, nécessairement, là, c'est un afflux. On a du mal, y compris là aujourd'hui, à tout contrôler. Donc après, on les oriente hein, nécessairement vers qui de droit. C'est d'ailleurs les avocats des familles, les avocats qui défendent nécessairement les salariés via notre organisation syndicale. Donc après, derrière, se réfléchira effectivement une plainte collective, ce qu'on appelle une class action avec ces salariés qui ont généralement démontrent et pointent du doigt et visent nécessairement tous les dysfonctionnements à peu près les mêmes qu'on retrouve dans l'ensemble des témoignages qui nous remontent.
Mais même en ce qui concerne les conditions de vie des résidents et même des soignants, il y a pourtant des contrôles de l'État et il n'y a pas de défaillances qui ont été signalées en nombre ces dernières années.
Alors, je vais vous prendre deux chiffres, deux années surtout de contrôles. En 2016, on a eu 91 contrôles sur les EHPAD en France. Donc déjà, c'est ça très limité comme nombre. En 2021, on était à 11 contrôles. Donc vous imaginez bien que 11 contrôles sur l'ensemble des établissements privés lucratifs, et pas seulement d'ailleurs, en France, c'est largement en dessous de ce qui devrait être. D'une part. D'autre part, c'est que les contrôles ne sont pas inopinés. On prévient une semaine avant la direction de l'établissement, ce qui lui permet de doubler les effectifs le jour de la visite et de remettre à neuf l'établissement de façon à ce qu'il n'y ait aucun dysfonctionnement de pointer le jour de la visite des contrôleurs.
On va désormais écouter les témoignages d'une ancienne salariée soignante de ce centre, Orpea des Sablons. Elle s'appelle Marion Lescure. C'est vous qui nous avez mis en relation avec cette personne. Elle est partie de cet EHPAD il y a 2 ans maintenant. Et donc, on va écouter son témoignage. Vous avez donc travaillé pendant plus de 10 ans à Orpea, au Mans, dans le quartier des Sablons. Vous êtes parti en 2020, avant de se pencher un peu sur les causes de votre départ. Racontez-nous déjà votre parcours et comment vous êtes arrivé à Orpea.
Donc je suis arrivée sur le Mans, j'étais infirmière. Déjà bonjour, pardon, je suis arrivée sur le Mans, j'étais infirmière. Et j'ai commencé à faire de l'intérim pour essayer de voir, connaître un peu mieux les structures et me poser. Je suis arrivée par le biais de l'intérim à Orpea et Sablons en 2009, en effet. J'y étais embauchée en 2010, octobre 2010, et j'y suis restée, comme vous l'avez dit, jusqu'en 2020.
Qu'est-ce qui, justement, pourquoi êtes-vous partie en 2020 d'Orpea ?
En fait, tout est très bien expliqué dans le livre de Victor Castanet. Les conditions de travail étaient donc très difficiles. Il y avait une maltraitance institutionnelle envers les résidents, les familles et donc les salariés. Donc, quand on a décidé un petit peu de mettre le holà à ça et puis de dénoncer ce qui se passait, il s'est avéré que c'est devenu très compliqué pour nous. On a subi des pressions de la part de la direction qui était en place, de la direction également régionale, et puis même encore plus haut. On nous a demandé de nous taire, on nous a menacé, il y a eu des pressions qui se sont faites à tout niveau sur tous les salariés. Il y a eu une mise en place d'une politique de terreur, il y a eu beaucoup d'abandons de poste, des mises à pied, des licenciements abusifs à tour de bras, tout ça en très très peu de temps. Donc tout le monde venait avec la peur au ventre. Et au bout d'un moment, je dirais que se battre contre une institution comme Orpea pour dénoncer des faits aussi graves, c'est épuisant. Donc on a fini par tout tomber, moi la première, comme des mouches. Et puis finalement, on a été arrêté. Donc on s'est retrouvé en arrêt maladie. Et puis finalement, on a été reconnu en maladie professionnelle pour stress post-traumatique lié aux conditions de travail. Qui était une première sur le Mans, d'ailleurs même dans le département, puisque c'était une pathologie qui était considérée comme hors tableau. Donc il y a eu une enquête et suite à cette enquête, nous avons été reconnus comme tels.
Vous étiez combien de soignants pour combien de patients dans ce centre ?
Je pourrais pas vous dire les chiffres exacts parce que ça remonte. Nous étions environ 48 salariés, 48 à 49. Au niveau des infirmières, nous avions une infirmière coordinatrice qui était là en place la semaine. Et au niveau des infirmières, c'est-à-dire ça c'était la cadre, au niveau des infirmières, on était par roulement, donc 2 sur chaque roulement. Alors ça, c'était quand, bien sûr, aucune de nous n'était absente, parce que quand il y avait une absence, on se retrouvait seul pour 95 instants résidents. C'était déjà beaucoup plus compliqué. Et au niveau des soignants, ça n'a fait que diminuer au fur et à mesure des ans. Donc le matin, en général, par étage, ils étaient 2 aides-soignants. Ça dépendait, il y avait des étages qui étaient plus ou moins chargés. Et l'après-midi, les filles étaient toutes seules. Donc ça pouvait aller de 15 résidents jusqu'à, si je ne me trompe pas, 28 résidents qu'il y avait au deuxième. C'était très compliqué pour elle à gérer et puis pour nous. Ce qui expliquait aussi pourquoi beaucoup de familles de résidents se plaignaient des fois des temps d'attente de leurs parents, du fait qu'ils aient pu être souillés et pas changés de suite, ou qu'ils aient réclamé quelque chose et qu'ils ne l'aient pas eu dans l'instant. Parce que finalement, quand une des filles partait en pause l'après-midi, il n'y avait personne pour la remplacer à l'étage. Ce qui était très problématique.
Et quand vous parlez de vos conditions de travail, d'un point de vue des heures, des congés et même d'un point de vue matériel, comment elles étaient à l'intérieur de ce centre ?
Ouais, c'était compliqué aussi. Du point de vue matériel, on courait toujours après tout. Ce qui est dit, c'est vrai. Ce qui est dénoncé actuellement, c'est ce qu'on a dénoncé. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais assez de protection. À la moitié du mois, c'était compliqué. On avait notre IDEC qui allait sur son temps de travail chercher des protections au Super U. parce que ben on en avait pas assez. Il manquait aussi deux choses pour l'animation, donc les familles ramenaient des gobelets, des bouts de ficelle, enfin tout ça pour une maison de retraite à 3000 euros par mois en moyenne, hein. Donc c'est un petit peu navrant. Et puis ben il y avait un rationnement alimentaire qui se faisait aussi, il fallait toujours courir après les doubles rations qui avaient été instaurées par les médecins pour des résidents qui étaient dénutris, et on n'avait jamais le comptant. C'est pareil dans les EHPAD, on se retrouvait avec des personnes âgées qui n'avaient pas forcément ou de fromage blanc ou de compote. Enfin, oui. Il manquait toujours quelque chose. Donc, je dirais que nous, on était sous le même régime. Hein. Quand on a demandé des surblouses à un moment donné, bah, il était impossible pour nous d'en avoir. On manquait aussi de matériel de soins, c'était compliqué. On manquait de personnel. Et puis, bah, les heures, bien sûr, bah, n'étaient jamais ni récupérées ni payées. En tous les cas, moi, quand j'étais en place, il y avait un... À l'accueil, nous avions un cahier sur lequel nous devions inscrire nos heures d'arrivée, nos heures de pause et également nos heures de départ. Donc, normalement, vous êtes censé noter l'heure à laquelle vous partez pour vous protéger en cas d'un accident sur la route. Eh bien là, la directrice de l'époque nous imposait de ne pas le noter et nous disait que de toute façon, ça ne servait à rien, qu'on ne serait ni jamais payé, enfin, ni récupéré, ni payé. Qui était le cas d'ailleurs. D'ailleurs, je n'ai jamais récupéré ni été payé de mes heures.
Dans le livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet, il décrit également un système de contrôle des EHPAD défaillant, selon lui. Il accuse ces centres, prévenus à l'avance des contrôles, de faire le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de défaillance majeure qui soit constatée. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?
Eh bien, malheureusement, je suis d'accord. Pour ma part, je n'ai vu... Alors, je n'ai pas été là tout le temps, bien évidemment, mais je n'ai vu qu'un contrôle de l'ARS. Nous avions été prévenus à l'avance, puisque quelques jours avant, il fallait tout nettoyer, tout briquer. Le personnel était en poste, ce qui n'était pas toujours le cas, hein, d'habitude. Et nous, quand nous sommes retrouvés dans ce climat très compliqué, des familles se sont associées à nous. Dans un premier temps, elles ont écrit à l'inspection du travail, qui a renvoyé ses feuilles vers l'ARS. Nous avons également écrit à l'ARS au Mans. Puis, comme nous n'avions pas de réponse, nous avons écrit à Angers, qui nous a renvoyés sur le Mans. Nous nous sommes déplacés également avec l'association Témis qui existait, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais à l'époque c'était une association qui luttait contre le harcèlement et qui donc intervenait dans plusieurs situations compliquées. Eux-mêmes se sont déplacés, la CGT également s'est déplacée parce que nous avons fait appel à la CGT, on était complètement démunis. Eh bien, on n'a jamais eu de réponse. Jamais il a été fait, en tous les cas tant qu'on était en poste, jamais rien n'a été fait. Nous avions également alerté le président du Conseil Général à l'époque, c'était Monsieur Le Ménère, une de mes collègues l'avait rencontré, on était intervenu aussi auprès de lui, on n'a jamais eu de réponse. Ah, c'est une réalité qu'il n'y a pas de, enfin, qu'il n'y ait pas en tous les cas, dans notre cas, je ne peux pas parler pour toutes les maisons de retraite, mais nous dans notre cas, il n'y a jamais eu de contrôle de la part de ces institutions.
Vous expliquez aussi que l'inspection du travail a déposé l'article 40 auprès du procureur de la République. Expliquez-nous un peu.
Oui, c'est ça. En effet, nous avions sollicité l'inspection du travail puisque nous étions démunis et qu'on n'avait aucun moyen d'agir. Et en fait, après enquête, bon, bien sûr, elle les a prévenus. Il y a eu de nombreux courriers qui ont été adressés. Il y a eu un comité de pilotage qui a été mis en place. Et en octobre 2016, elle a déposé cet article 40 auprès du procureur de la République. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un procès-verbal sans mise en demeure préalable qui peut être utilisé par l'inspecteur du travail lorsque les faits qu'il constate au sein de l'entreprise dans laquelle il se déplace peuvent représenter un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs. Donc voilà, donc cet article 40 a été déposé par l'inspection du travail. Nous avons également déposé plainte. La plainte a été classée sans suite en septembre 2021. Et là, au vu des nouveaux événements avec Victor Castanet et tout ce qui se dit, bah, nous avons bon espoir que cette plainte soit réouverte.
Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions.
Bah, je vous en prie. Au revoir.
Dominique Chave, quel regard portez-vous sur ce deuxième témoignage ?
Alors, c'est un dossier que je connaissais particulièrement bien, puisque c'était mon département, donc nécessairement j'y mettais un accent particulier. Mais enfin, en tout cas, ce témoignage rejoint un peu tous les témoignages de nos élus et des salariés qui nous ont effectué des remontées. Et pour moi, il n'y a rien d'étonnant dans les pratiques, dans le dispositif qu'avait mis en place Orpea, de façon à pouvoir mettre fin à toutes sortes de revendications qui émanaient des salariés et qui allaient à contresens de la politique qui était menée par le groupe.
Mais c'est une ancienne salariée qui témoigne. On a peu de témoignages de salariés depuis le début de ces révélations, de salariés qui sont en poste. Pourquoi ?
C'est toujours compliqué parce que aujourd'hui, Orpea n'hésite pas à licencier quasiment sur le champ en trouvant des fautes qui sont nécessairement fallacieuses. Tout salarié et direction d'ailleurs qui voudrait prendre la parole et exprimer tout ce qu'il constate comme dysfonctionnement sur les établissements.
Est-ce que vous craignez que ça ne puisse pas freiner vos investigations, vos preuves, la véracité de vos preuves s'il n'y a pas de témoignages de soignants qui sont en poste en ce moment ?
Des témoignages, on en a. Ils sont parfois anonymes, ils sont parfois écrits, ils ne sont pas toujours forcément dans les médias, mais on en a de multiples. Ils continuent à remonter de manière assez élevée. Donc, on est tout à fait confiant par rapport à ce dossier. D'une part, d'autre part, les éléments factuels qui nous permettent aujourd'hui de faire éclater ce scandale, et en particulier Victor Castanet à travers son ouvrage, sont suffisamment à la fois éloquents, mais à la fois conséquents pour pouvoir aller au tribunal pénal et dénoncer tout ça.
Enfin, Victor Castanet expliquait que l'objectif de son enquête, c'était de créer un électrochoc. Pensez-vous que les conditions peuvent s'améliorer après ça ?
Je pense qu'encore une fois, il faut un débat de société pour revoir dans son intégralité la prise en charge de la personne âgée. Je pense qu'on constate aujourd'hui que les structures et les personnes, y compris accueillies, tout ça, ça a évolué en fonction du papy-boom. Hein. Et clairement, aujourd'hui, on accueille une personne âgée à partir de l'âge de 85 ans dans nos établissements. Il faut qu'on regarde, et le nombre va continuer à s'accentuer, il faut qu'on regarde ensemble comment on peut faire évoluer ce système, que ces établissements ne soient pas considérés comme des lieux qu'on appelle des mouroirs, mais que ce soit réellement des lieux de vie.
Merci Dominique Chave d'avoir répondu
Merci
à notre invitation. Secrétaire général de l'Union fédérale de la santé privée pour le syndicat CGT, je remercie également nos deux interlocutrices pour leur témoignage. Et comme je le disais tout à l'heure, la direction d'Orpea des Sablons n'a pour le moment pas répondu à nos sollicitations. Et puis c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur radioalpa.com. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.